Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 35. Évangile de Marc, chapitre 35. J'ai donné comme titre à ma prédication, « Jésus est-il dans votre barque ?» Voilà, c'est une question à laquelle vous devriez pouvoir répondre dans une vingtaine de minutes. Marc, chapitre 4, verset 35. Une épreuve que Dieu va permettre. Est-ce que vous savez que Dieu peut permettre des épreuves dans la vie ? Ouais, Dieu peut permettre des épreuves. On ne le comprend pas parce que pour nous, épreuve, c'est des choses qui nous barrent le chemin, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas vrai. Des épreuves peuvent être très utiles. Marc, chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Comment avez-vous eu si peur? Comment n'avez-vous point la foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer. Je ne sais pas ce que j'aurais payé pour voir la tête qu'ils ont fait quand Jésus s'est réveillé et qu'il a parlé à la mer. Il n'a pas fait une grande prière de 3h30. Juste trois mots. Silence, tais-toi. Et j'ai lu dans une version, je ne sais pas si c'est une version ou un commentaire, une vieille version, c'est silence, laisse mes amis tranquilles. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Je me rappelle plus si c'est un commentaire, je crois que c'est une version. Laisse mes amis tranquilles. Mais j'imagine les yeux qu'ils ont dû faire. Vous vous rendez compte? Trois mots. C'est pas un jeûne et prière d'une semaine. C'est trois mots. Silence, tais-toi. N'oubliez pas que c'est lui qui a créé les cieux et la terre et la mer. Et comme disait Janson tout à l'heure, ce qu'il a accepté pour venir sur la terre pour pouvoir nous faire vivre ces choses. Dieu a permis cette épreuve, cette histoire, elle s'est vraiment passée. Ils sont là, 13, sur le bateau. Ils vont faire une expérience extraordinaire. Alors cette histoire, elle nous sert beaucoup parce que beaucoup de gens comparent la vie, à la traversée d'un lac. Beaucoup disent, des gens, voilà, c'est comme ça, de la naissance, c'est un côté de la berge, ouais, jusqu'à la mort, c'est de l'autre côté. On traverse du temps à la rive de l'éternité. L'éternité, avez-vous pensé à l'éternité? Tiens donc, est-ce que vous y pensez des fois? Pensez-vous à l'éternité? Est-ce que vous y pensez? Ou est-ce que vous pensez qu'aux élections présidentielles? Très terre à terre. Il y a un jour, de toute façon, où vous passerez de cette rive du temps à l'éternité. Et ça vaut la peine d'y réfléchir. C'est pour cela que Dieu nous a laissé sa parole où on va aborder. Suis-je prêt? On a un cantique qui dit, es-tu prêt pour l'éternité? Lorsque je passerai devant l'agneau, devant le Saint-Livre, est-ce que vous êtes prêt pour l'éternité? On pourrait souvent prêcher sur ce sujet, parce que c'est un sujet le plus important auquel nous devrions être confrontés. Est-ce que je suis prêt pour l'éternité? Est-ce que vous aimez aborder ce sujet? Ou est-ce que dans les églises, il faut l'aborder? Ou allez-vous aborder après votre mort? Allez-vous aborder sur les rives du paradis? Allez-vous aborder sur les rives de l'enfer éternel? Ça, on n'ose pas en parler. Est-ce qu'il faut parler de l'enfer? Il y a beaucoup de gens qui disent, « Oh, mais moi, vous savez, moi, ces histoires. Ces histoires, c'est le dernier de mes soucis. De toute façon, on verra bien après. » Et comme on l'a entendu tout à l'heure, justement, après, ça sera trop tard. Certains ont une fausse espérance et disent, bon, j'espère qu'il y a quelque chose après, on verra bien. Alors pourquoi Dieu aurait-il mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité? Vous avez la pensée de l'éternité. C'est pour ça que de temps en temps, vous y pensez. Alors cette pensée, je pense qu'on peut l'étouffer d'une façon très directe en disant « Dieu n'existe pas, je suis athée ». Vous savez, c'est comme si on mettait un sac de 50 kilos sur quelque chose pour l'étouffer. Voilà, un poussin, vous voyez, un sac de 50 kilos, et voilà, sur le poussin, il va avoir des problèmes à respirer. Est-ce que Dieu nous tromperait? Pourquoi Dieu a-t-il mis la pensée de l'éternité dans votre cœur? Pourquoi? Eh bien, pour que vous réfléchissiez. Pour que vous réfléchissiez à ce moment. Alors c'est vrai que moi, je discute avec des gens. Non, quelqu'un me disait dernièrement, non, je n'ai pas la pensée de l'éternité. Je dis, écoutez, ce n'est pas possible. Je ne vous crois pas. Et je suis sûr qu'il me mentait. Il y a des textes, comme celui qu'on est en train de voir, où Dieu veut nous parler, où Dieu veut nous indiquer certaines choses. Vous vous rendez compte que Dieu a mis des GPS dans le cerveau de certains oiseaux. Certains oiseaux migrateurs ont des GPS incorporés. C'est gratuit, c'est incorporé à la livraison. Mais ce n'est pas extraordinaire. Des insectes, des papillons, des oiseaux, des hirondelles. Il y a des choses extraordinaires. On serait émerveillé si on voyait des reportages sur la façon dont certains oiseaux qui voyagent des milliers de kilomètres et qui arrivent tous les ans au même endroit. Ce n'est pas extraordinaire. Dieu a donné à des oiseaux le sens de la migration parfaite. Vous croyez qu'à l'homme, il va le laisser en plan comme ça? S'il a donné la pensée de l'éternité, c'est justement pour qu'on réfléchisse à ce moment où on partira dans l'au-delà. Et c'est vrai qu'on peut poser la question, oui, mais personne n'est jamais revenu. Voilà, les gens, ils l'ont facile en disant, oui, mais moi, j'y croirais si quelqu'un revenait. Mais ce n'est peut-être pas la question qu'il faut poser. La question qu'il faut vraiment poser est celle-ci. Est-ce que les hommes seraient disposés à croire si quelqu'un revenait? Ça, c'est l'honnêteté. Parce que justement, quelqu'un est revenu de l'au-delà. Quelqu'un est venu de l'au-delà. C'est lui qui l'a créé, l'au-delà, plus. Qui c'est qui a créé l'enfer? Qui c'est qui a créé le paradis? Je vous signale quand même que l'enfer, Dieu ne l'a pas créé pour les hommes. Dieu l'a créé pour le diable. Et pour les anges qui avaient choisi délibérément d'abandonner Dieu. Mais comme le péché est entré dans le monde, il est certain que l'enfer est également destiné à ceux qui rejettent Jésus-Christ. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a plein de textes où on voit que l'éternité existe. Il y a certaines choses qui nous sont dites. L'apôtre Paul en parle quand il a été ravi au troisième ciel, dans le paradis. Alors il y a des petits renseignements, mais il a vu des choses tellement belles qu'il dit que ce n'est même pas la peine de les dire parce qu'elles sont inexprimables. Tellement c'est grand. Jésus a parlé de l'enfer aussi. Est-ce qu'il en a souvent parlé? Parce que quelqu'un un jour m'a dit, non, Jésus parle qu'il est que de sa bonté, de sa douceur. Je suis désolé. Il y a 12 textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de la géhenne. Il y en a 11. Sur les 12, c'est Jésus qui en parle 11 fois. Alors, il nous parle de l'enfer, il nous parle du paradis, il nous parle de l'enfer comme étant la géhenne, un feu qui ne s'éteint point, un ver rongeur qui ne meurt point. Il y a des expressions, ça vous fait quand même réfléchir, vous ne trouvez pas? Il a aussi parlé de la maison du Père. Je vais vous préparer une maison, et quand tout sera prêt, je reviendrai vous chercher. Il parle du royaume de Dieu, de la cité céleste, il parle des portes. Des portes qui sont en perles. La porte, c'est une perle. Allez, il y a des perles, il y a des grosses perles dans le ciel. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Des fois, on nous montre des perles. Regarde cette perle, qu'elle est grosse. Je dis, attends, quand tu vas aller au ciel, tu vas voir des perles. La porte, c'est une perle. Pour vous dire, bon, mais écoutez, Dieu, après tout, il est grand. Moi, je pense qu'au ciel, on va être étonné. Il n'y a pas que les perles qui vont être grosses. Moi, je pense que les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ça ne va pas être une petite boule comme celle-ci. Moi, je pense que ça va être une grosse boule. Une très, très grosse. On en reparlera? Si ça se présente. En tous les cas, il nous parle surtout d'un lieu où il n'y aura plus ni pleurs. Ça, c'est intéressant. Quelle que soit la taille de la boule, ce n'est pas grave. Mais il nous parle d'un lieu où il n'y aura ni pleurs, ni larmes, ni cris, ni douleurs.
C'est pas extraordinaire ça? Et ça, on en a besoin dans ce monde de détresse et d'angoisse. On doit se préparer à rencontrer Dieu. Il nous a parlé de l'enfer. Pourquoi? Il nous a parlé de l'enfer pour qu'on cherche à y échapper à l'enfer. Il ne nous a pas parlé de l'enfer pour nous faire peur. Et il nous parle du ciel. Pourquoi? Eh bien, pour qu'on puisse y rentrer. Qu'on sache le moyen pour y rentrer. C'est pour ça qu'il dit « Je suis la porte ». Dieu ne nous parle pas de l'enfer pour nous faire peur. Dieu nous parle de l'enfer pour qu'on sache ce qu'il faut faire pour l'éviter. Il a prouvé ces choses. Il nous a prouvé son amour. Voilà, il a parlé de la terre. Je ne sais pas comment on parle au ciel. Est-ce que les gens parlent au ciel? Ben oui. Vous croyez que les gens parlent au ciel? Ben oui. Jésus, moi je pense qu'au paradis, les gens ils doivent parler, oui ou non? Quelqu'un m'a dit, mais non, les gens, ils doivent tous dormir dans des caisses. Ah bon? Moi, je crois que le paradis, non, les gens, ils bon. Hein? Alors, ce message qu'on aborde ce soir, comment vous l'acceptez? Est-ce que vous vous en moquez? Est-ce que vous dites, bon, c'est une parole religieuse? Vous avez vu comment ils ont accepté le message de Jésus-Christ? Ils ont préféré un criminel à sa place. Voilà comment on a accueilli le Seigneur, de la façon la plus réelle qui soit, au moment où les gens qui avaient été bénis auraient pu dire « Non, épargne-le », ils ont préféré un criminel. C'est pour vous dire comment ils se sont moqués de Dieu et de sa parole. Et la traversée du lac, c'est une affaire sérieuse. La traversée du lac, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 20 ans, ça peut durer 80 ans. Mais pour certains, la traversée du lac, ça doit être que du plaisir. Moi, la vie, je veux m'amuser, je veux profiter au maximum, tout ce que la mer peut me donner. Moi, je veux en profiter. Voilà, et les gens, ils s'embarquent dans la jeunesse. Moi, je veux m'amuser. On l'entend. Moi, je veux m'éclater. Je veux que le vent gonfle mes voiles et je veux voguer avec de grands projets. Enfin, je résume un petit peu comment les gens parlent aujourd'hui, parce que la vie, elle est belle, le ciel est bleu, etc., etc. Et on prévoit tout. Et les gens prévoient tout pour que ça dure. Un métier, est-ce que c'est bien d'avoir un bon métier? Pourquoi on veut un bon métier? Tiens donc, pourquoi on veut un bon métier? Est-ce que c'est sain de vouloir un bon métier? Bon, pourquoi on veut un bon métier? Allez, il faut m'aider. Parce que la prédication, je n'ai pas eu le temps de la finir. Allez, aidez-moi. Pourquoi les gens veulent un bon métier? Pourquoi les gens veulent des assurances? C'est bien d'avoir des assurances? Oui. Moi, il y a un gars qui m'est rentré dedans tout à l'heure, j'étais content d'être bien assuré. Quoique c'est lui qui payera. Faisons l'assurance. Mais enfin, pourquoi on prépare certaines choses? Les assurances pour la vie, les assurances pour la mort. Bon, les assurances vieillesse, contre le vent, contre la grêle. Pourquoi on s'assure? Il y a même des assureurs qui assurent au cas où votre assurance ne vous assurerait pas. Là, mais c'est vrai. C'est vrai ce que je vous dis. On prévoit tout. On est dans un monde où on vous pousse, mais même les publicités provoquent ces choses et provoquent des besoins, parfois même qui n'existent pas. Enfin, les disciples, ils avaient tout prévu. Ils avaient regardé, tac, tac, sur Internet, le bulletin météo, et voilà, la météo était bonne, on peut traverser. Mais voilà, il nous est dit qu'il s'éleva un grand tourbillon. Alors, je vous pose une question. Quelle est la tempête que l'on peut traverser sur la Terre? Quelle est la tempête? La maladie, c'est une tempête. Est-ce que quand on est hospitalisé, parfois longtemps, ça peut être une tempête? Ben oui, ça peut être une tempête. Hein? Est-ce que quelqu'un qui perd son travail, ça peut être une tempête? Imaginez, vous avez un prêt bancaire, vous avez des enfants, vous perdez votre travail, est-ce que ça peut être une tempête? Oui. Des choses plus intimes, des amis qui vous trahissent, est-ce que ça peut arriver ça? Est-ce que vous avez déjà été trahi par un ami? Est-ce que ce n'est pas une tempête, ça, quelque part, hein? Ça fait de la peine, ça. Une faillite. Un homme qui... Moi, j'ai vu un homme, une fois, j'étais mangé chez lui. Je pense qu'il avait une des maisons des plus belles de Toulouse. Je l'ai revu il y a 3 ou 4 ans. J'étais parti prêcher à 7. Je vois un gars qui arrive, habillé très, très, très simplement. Je dis, mais ce n'est pas possible. Il a fait faillite, il est devenu clochard. Sa femme l'a quitté, il a tout perdu, tout, il est devenu clochard. Alors, il se requinquillait un petit peu, il avait trouvé un studio, il recommençait à bosser. Ça, c'est une tempête aussi. Hein? Alors, j'ai pas eu le temps de parler avec lui, mais ça peut arriver. La perte d'un être cher, est-ce que ça peut être une tempête? Vous voyez? Enfin, les tempêtes, d'une manière ou d'une autre, c'est un peu toutes les choses qu'on ne prévoit pas, des choses qu'on ne pense pas. On avait prévu, tiens, moi j'avais prévu d'avoir 3 enfants. J'en ai eu 7. Je parle pas de moi. Ou alors, on avait prévu d'en avoir, et on n'en a pas. Mais c'est pas une épreuve, ça? Vous riez? Mais c'est vrai. Mais oui, même si j'ai eu le cas, je veux dire... Bon, hein? La tempête, ça peut être un enfant qui a mal tourné. Oui ou non? Il y a des choses graves dans la vie qui peuvent vraiment nous détruire. Et on ne sait pas quelle tempête peut nous envahir. Il faut le dire, il y a des tempêtes. Et la Bible parle d'une grande tempête qui va venir sur le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Dans ce bateau, ils étaient 13. Et en fin de compte, votre vie dépendra de ce que vous ferez du 13e homme qui était dans la barque, en fin de compte. Tout dépendra si dans votre vie, dans votre barque, il y est ou il n'y est pas. Voilà en vérité comment vous pourrez affronter la tempête. Si Jésus n'avait pas été là, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, il y aurait eu un fait divers de plus dans le journal. 12 pêcheurs sont morts, noyés dans une grande tempête. Si Jésus n'avait pas été là, il n'y avait pas de solution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le monde est dans la détresse, le monde est perdu, parce qu'ils n'ont pas le Seigneur Jésus dans leur barque. Alors vous allez me dire, mais moi je crois en Dieu, j'ai un crucifix sur la cheminée. Je veux dire, il y aurait pu avoir un crucifix dans la barque. Je pense pas, vous voyez, que le crucifix aurait empêché la tempête. Il y a des gens qui sont, mais moi j'ai ma Bible dans la boîte à gants. Moi j'ai l'image de Jésus au-dessus de mon lit. Ah, vous savez, il aurait pu avoir l'image de Jésus, le crucifix, la porte, la croix, ce que vous voudrez. Dans la barque, ça aurait absolument rien fait. Il faut Jésus en personne. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas une image de Jésus, un crucifix qui nous parle de Jésus. Il fallait Jésus lui-même. Il faut que Jésus soit votre vie. Il ne faut pas que dire, ah, moi j'ai une religion, moi je suis pentecôtiste, moi je suis évangélique, moi je suis baptiste. Ça ne veut rien dire. Dans la barque, il fallait qu'il y ait Jésus lui-même. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est avoir Jésus dans sa vie. Jésus est-il dans votre vie? Jésus est-il dans votre barque? Combien de gens, oh moi je crois, oui j'ai été baptisé, moi je veux pas être comme un chien, je veux pas mourir comme un chien, si je meurs je veux passer par l'église, tout ça. Mais Jésus est-il dans votre vie? Est-ce que vous pouvez dire ce soir, oui Jésus-Christ, il est entré dans ma vie, il est dans mon cœur. La Bible nous parle d'un Seigneur qui est vivant, il est présent. Il est actuel, il veut vivre dans votre vie par le Saint-Esprit. C'est ça l'Évangile. Je ne sais pas comment vous décrivez l'Évangile, mais l'Évangile, c'est Jésus-Christ qui est vivant et qui est dans votre cœur. Il est vivant. Il le dit dans l'Apocalypse. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. » Il est vivant. Il faut que ça commence par cette conviction. Il n'est pas mort sur la croix. Il est mort et il est ressuscité. Et il dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Jésus est-il entré? Il est Dieu. Il est tout-puissant. Il peut rentrer dans votre cœur. Maintenant, il vous faut lui ouvrir la porte. Jésus l'a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Moi, je lis souvent ce texte dans Jean 14. C'est un texte qui me bouleverse toujours. Voilà comment on peut affronter les tempêtes. Il est là, il est tout près. L'apôtre Paul a dit, il est près de nous. Il est près de nous. Alors, est-ce qu'il est dans votre vie? Est-ce qu'il est dans votre cœur? Ou est-ce que vous l'avez laissé dehors? Ou est-ce que vous l'invitez de temps en temps quand vous avez un problème, comme beaucoup font? Ah, moi je vais à l'église, vous savez. Quand je suis malade, je vais à l'église. Et le Seigneur, il me bénit. Moi, j'ai la foi. Je regrette, ça, c'est pas la foi, ça. C'est pas la foi, ça. C'est pas sérieux. Qu'on soit malade ou en bonne santé, il faut que Jésus soit dans notre cœur. Car c'est ce qui fera toute la différence, que Jésus soit dans votre barque ou qu'il soit à l'extérieur de la barque. Parce que la tempête viendra. Vous direz, mais Dieu, il dort. Le Seigneur, il dormait. Vous savez? Mais je peux vous dire, si Jésus, il est dans votre barque, il interviendra au moment où il faut intervenir. Parce que votre tempête, quelque part, deviendra aussi la sienne. Et si vous marchez par la foi, vous expérimenterez la puissance du Seigneur. Il l'a dit dans la tempête, je te garderai. Votre foi peut vaciller parce que la prière des apôtres, ce n'était pas une grande prière de foi. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? Est-ce que c'était une prière de foi? Est-ce que c'était une prière de foi? Non. La foi, ça aurait été... Il y en a un qui aurait dû dire, bon, il dort, laissez-le tranquille. Seigneur. Est-ce qu'ils auraient pu l'apaiser, la tempête? Est-ce que dans une autre tempête, Jésus ne leur a pas dit, mais où est votre foi? Il ne leur a pas dit, vous avez bien fait de me réveiller. C'est bien. Il leur a dit, où est votre foi? De l'air de dire, vous pouviez, par la foi, arrêter la tempête. Et que Dieu vous accorde la grâce, dans une tempête ou dans une autre, de pouvoir lui faire confiance et de dire, Seigneur, cette tempête, je sais que tu vas la calmer. Je sais que tu vas l'arrêter. Vous pouvez, quand Jésus dit, oui, votre foi, ce n'est pas pour les embarrasser, pour les gêner, c'est pour qu'ils comprennent bien qu'à cause du fait de sa présence dans votre esprit, vous pouvez voir la gloire de Dieu. Cette femme, cette infirmière ce matin qui me disait, mais cette femme, c'est fini, c'est terminé. Vous ne pouvez rien faire. Je dis, mais moi non, je ne peux rien faire. Mais je crois que Dieu, il peut tout. Il est tout puissant. Et il y a des gens qui sont en bonne santé et qui risquent de mourir avant elle. Croyez-moi. La tempête, le possédé de Gadara, il n'était pas dans la tempête. Comment Jésus l'a guéri? Une parole de Jésus, une parole. Et la tempête s'est apaisée. Marie de Magdala qui détruisait sa vie et surtout la vie des autres hommes, elle n'était pas dans la tempête, elle. Vous ne croyez pas qu'il y a eu le calme après dans sa vie à cette femme? Et on pourrait, Saul de Tarse, vous ne croyez pas qu'il mettait la tempête lui aussi, et qu'il était lui-même dans la tempête? Quelle violence dans la vie de cet homme! Quelle tempête! Un rendez-vous avec Jésus, quelle bénédiction! L'homme qui respirait le meurtre, parce qu'il respirait le meurtre, il a écrit 1 Corinthiens 13. C'est pas mal, vous ne trouvez pas? Quand vous croisiez cet homme, il respirait le meurtre. Il faisait bon discuter avec lui, voyez? C'est ceux qui l'ont connu avant, s'ils ont lu 1 Corinthiens 13, mais qui c'est qui a écrit ce truc? Tu sais, mais c'est Saul de Tarse. Tu sais, il paraît que c'est un apôtre maintenant. On a du mal à croire qu'un gars qui respire le meurtre peut écrire 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a calmé la tempête. La résurrection de Lazare. Ça ne vous encourage pas la résurrection de Lazare? Parce que la résurrection de Lazare nous parle quand même aussi de notre résurrection. Quelle espérance dans les tempêtes! Quelle espérance devant la mort! Ça ne vous donne pas de l'espérance, la résurrection? La résurrection de Jésus, bon, n'en parlons pas. Mais la résurrection de Lazare, ça ne vous donne pas de l'espérance? Étienne qui est lapidé, qui voit la gloire de Dieu et qui s'endort. Vous ne croyez pas que tous ceux qui sont persécutés, quand ils lisent l'histoire d'Étienne, ils doivent se dire un jour la tempête s'arrêtera? Vous ne croyez pas que c'est une grande bénédiction? Voyez, et nous pourrions multiplier les exemples. Ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'il peut calmer toutes les tempêtes, toutes, à condition que vous regardiez à la croix, que vous regardiez au calvaire. Parce que croyez-moi que s'il y en a bien un qui a subi une tempête, c'est bien Jésus-Christ sur le calvaire. Et la tempête, elle était sur la croix au milieu, sur la croix où Jésus était. Il a été fait péché pour nous. La Bible dit qu'il a pris les ténèbres sur lui. Il y avait les ténèbres en plein jour. Il est dit que de midi à 15h, il y a eu des ténèbres sur toute la terre, que les rochers se sont fendus, la terre a tremblé, le soleil s'est caché. Il a été abandonné. Il a subi la tempête, il a subi l'enfer. Pourquoi? Pour que vous n'ayez pas à subir la grande, grande, grande tempête qui va venir sur la terre du jugement. C'est pour ça, comme il a subi la plus grande tempête à Golgotha, il peut les calmer toutes. La seule chose que vous devez faire, c'est l'inviter. Ce soir, l'avez-vous invité? Ou est-ce que vous vous contentez d'un crucifix dans le bateau, ou d'une image pieuse dans la chambre? Je peux vous dire que le jour de la tempête, ça servira à rien. Est-ce que vous voulez que Jésus soit à la poupe? Il nous a dit qu'il était à la poupe. La poupe, c'est le gouvernail. Qui c'est qui a à la poupe de votre vie? Qui c'est qui a, au fait? C'est vous qui vous gouvernez ou c'est Jésus? Est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir des tempêtes? Vous en aurez? Est-ce que vous pensez qu'il y en aura? Oui. Qui gouverne votre vie? Qui la gouverne? Si vous êtes là dans l'abattement, c'est que peut-être vous l'avez invité à sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit, moi je veux que Jésus soit dans ma barque. Je veux qu'il conduise toute ma vie. Je veux vivre avec cette espérance. Vous auriez aimé la voir à la tête des apôtres? Silence. Tais-toi. Vous vous rendez compte? Vous avez déjà vécu une tempête en bateau? Moi, je n'en ai vécu une. Et je peux vous dire que ça fait peur. Ça fait peur. Et vous rendez compte, c'est cette mer déchaînée, et tout d'un coup, trois mots, et tout est devenu calme. Et qui est cet homme? Dans une autre version, dans un autre texte, c'est qui est cet homme? Eh bien, ouais, c'est le Fils de Dieu. Il est ce soir au milieu de nous. Et il veut guérir, bénir, pourvoir, libérer. Il veut que vous entendiez dans votre esprit ces trois mots: tais-toi, silence, tais-toi. C'est peut-être vous qui devez commencer à vous taire pour commencer. C'est pas vrai? Et dire: Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Je vais apprendre à me taire pour écouter ta voix, pour écouter qu'il y a un homme dans les cieux. Il est un homme dans la gloire, on le sent, on le chante souvent. C'est Jésus de Nazareth. Il peut calmer les tempêtes. On ferme les yeux un instant. Y a-t-il quelqu'un qui veut inviter Jésus dans sa barque? Est-ce que vous êtes prêt pour l'éternité? Où aborderez-vous sur la rive de l'éternité? Aborderez-vous au paradis ou aborderez-vous en enfer? Si Jésus n'est pas dans votre barque, vous irez en enfer. Quelle que soit votre religion, serait-elle la meilleure religion au monde? Il faut inviter Jésus dans votre barque. Ils étaient là et la tempête s'est terminée. Qui est dans la tempête? Qui veut faire une expérience avec Dieu? Oui, la tempête, il l'a subie. Personne ne peut donner la leçon à Jésus. S'il y en a un qui l'a subi, c'est lui qui l'a subi. C'est lui qui l'a subi. Alors si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, pendant ce chant, venez sur le devant et dis: Seigneur, je te donne ma vie. Dimanche, il y a une jeune fille qui est venue pour la première fois. Le soir, elle était aux instructions sur le baptême. Elle m'a dit: je veux donner ma vie à Jésus-Christ, je veux me faire baptiser. Vous voyez des gens qui, de suite, invitent Jésus dans leur barque et ils expérimenteront le Dieu qui calme toutes les tempêtes. Je dis bien toutes. Si quelqu'un veut que l'on prie pour lui, pendant le chant de ce cantique, avancez-vous, je prierai avec vous et pour vous. Que Dieu vous bénisse.